Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité et ce matin je vous propose de réagir au processus électoral au Burkina Faso. J'ai déjà sous les yeux plusieurs centaines de réactions sur notre page Facebook de l'émission, j'espère que vous serez tout aussi nombreux au standard, d'autant que nous sommes à 6 semaines des élections législatives et présidentielles. Ce sont des scrutins hautement importants puisqu'ils doivent permettre de tourner la page de l'ère Blaise Compaoré. En tout cas, les partisans de l'ancien président menacent de boycotter les élections et ils en appellent à la désobéissance civile pour protester contre l'invalidation de plusieurs candidatures de l'ancienne majorité. Je vous rappelle tout de même que 52 partisans de l'ancien régime ont été écartés des élections législatives, tout comme le candidat à la présidentielle de l'ancien parti au pouvoir. Alors ces exclusions vous semblent-elles fondées? Quelles peuvent être les conséquences politiques? On en parlera ensemble dans une trentaine de minutes. D'ici là, évidemment, vous nous appelez, vous abusez du téléphone 33 9 693 693 70 09 693 693 70, si vous nous appelez de France, et vous continuez évidemment à réagir sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne. D'ailleurs, n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter, vous pouvez le faire tout au long de la journée. On a d'ailleurs besoin de vos questions en avance, en amont, pour contacter nos experts, nos spécialistes, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. La première question nous vient du Burkina Faso, de Bobo Dioulasso exactement. Bonjour Madi.
Bonjour Juan.
Merci.
Bonjour à tous vos collaborateurs.
Merci pour eux. Vous avez des questions sur l'Inde et précisément sur la colère d'une partie de la population dans l'ouest du pays.
Voilà, exactement. On a vu que l'Inde est secouée récemment par de grosses manifestations de personnes appartenant à la communauté Patel.
Oui.
Alors, je voudrais savoir qui sont ces personnes qui manifestent. Et pourquoi elles manifestent? Ensuite, je voudrais savoir comment réagit le gouvernement indien face à ces manifestations. Et est-ce qu'il y a des chances que leurs revendications soient entendues?
Oui, des manifestations d'une grande ampleur. La semaine dernière, il y avait par exemple 500 000 Patels dans la région de Gujarat, dans les rues de cette région, dans l'ouest du pays. Des manifestations qui ont d'ailleurs dégénéré. Au moins 9 personnes ont été tuées. Des bus, des voitures, des postes de police ont été incendiés. Jean-Luc Racine est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS. C'est vrai que ce mouvement de colère a pris de court de nombreux responsables politiques. D'abord, expliquez-nous, qui sont les Patels?
Alors, les Patels, c'est une caste d'agriculteurs, on va dire, plutôt aisés dans l'ensemble, qui a d'ailleurs un certain nombre de ses membres dans la diaspora indienne aux États-Unis, où ils ont beaucoup réussi dans le monde de l'hôtellerie, etc. Donc, c'est pas du tout ce qu'on appelle en Inde une basse caste.
D'accord, donc c'est une caste, on va dire, aisée.
Voilà, de bon niveau, c'est à peu près 15% de la population. Mais pour comprendre les manifestations massives qui ont eu lieu, il faut jeter un œil sur ce qui est un fait spécifique de l'Inde, c'est-à-dire l'ampleur de ce qu'on appelle la discrimination positive dans certains pays, ou ce qu'on peut appeler la politique des quotas.
Oui.
Quand l'Inde est devenue indépendante.
Un système de quotas qui permet aux plus démunis ou aux plus discriminés d'avoir accès, je sais pas, à des places à l'université, à des postes dans l'administration.
Des places dans la fonction publique. Mais au départ, en 1950, quand l'Inde s'est donné une constitution, ces quotas étaient destinés à ce qu'on appelait jadis, aujourd'hui c'est politiquement incorrect de les appeler comme ça, les intouchables, et ça devait durer 10 ans. En fait, ça n'a fait que s'amplifier et ça a monté l'échelle des castes pour englober en gros la quasi-totalité de ce qu'on appelle, pour faire bref, les basses castes. Ouais. Les Patels, eux, considèrent aujourd'hui que ce système est arrivé à bout de force parce que Et c'est pas un hasard si le mouvement est mené par des jeunes gens qui usent des réseaux sociaux pour mobiliser et qui pensent élargir le mouvement au-delà de l'état du Gujarat. Le Gujarat, c'est 65 millions d'habitants à peu près, hein, la population française pour faire bref. Ouais. Et eux, ils demandent d'être intégrés dans les catégories définies comme basses, de façon à bénéficier de ces quotas.
C'est paradoxal tout de même, pour une caste qui est quand même très aisée.
Eh oui, mais le problème, c'est que même des gens de bonne caste, des jeunes de bonne caste, fût-ils éduqués, ne trouvent pas nécessairement le genre d'emploi qu'ils cherchent. On est donc aujourd'hui en Inde face à une question que les Patel illustrent aujourd'hui, mais qui est une question plus large. Est-ce qu'il faut repenser ce système de quotas qu'on appelle en Inde des réservations, réservations d'emploi, réservations de sièges dans les collèges, qui font par exemple que pour un examen, si vous êtes de basse caste, si vous avez 3 points de moins, vous pouvez passer un examen, alors que quelqu'un de bonne caste qui ne bénéficie pas du quota ne l'aura pas.
Donc on voit bien que ce système de quotas crée des frustrations parmi les communautés qui en sont écartées, et c'est le cas notamment des Patels. Quelle est la réponse du gouvernement? Comment réagissent les autorités?
Est bien embêté, parce que d'une part, le gouvernement du Gujarat est dirigé par une personnalité politique, une femme qui est elle-même une Patel. Et puis évidemment, le Gujarat, c'est l'État de Narendra Modi, le premier ministre indien depuis 2014, nationaliste hindou, homme qui met en avant les politiques de développement et qui a fait une campagne victorieuse en mettant en avant aussi ce qu'on a appelé le modèle du Gujarat. Or, le modèle du Gujarat, ouvrir la porte aux industriels, favoriser la croissance, on voit bien que ça ne suffit pas pour donner de l'emploi à tous, y compris à une jeunesse relativement aisée, mais qui aspire à autre chose qu'à succéder à la tête de l'exploitation agricole de leur père.
Ouais. En tout cas, les leaders de ce mouvement entendent bien maintenir la pression. D'ailleurs, le leader, qui est un jeune de 22 ans, s'est rendu dans la capitale pour essayer d'influencer et d'obliger le gouvernement à prendre des mesures. Pour en savoir davantage, je vous renvoie sur notre site RFI.fr avec un article d'ailleurs consacré justement à cette révolte des Patels. Merci beaucoup Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, d'avoir été avec nous. On remercie Madi qui nous appelait de Bobo-Dioulasso. Des questions maintenant concernant le Burundi et la mise en place du nouveau gouvernement burundais. Sonia Rollet, journaliste au service Afrique des RFI, qui suit de très près la situation sur place, est avec nous. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Et on accueille Sidi. Bienvenue Sidi.
Oui, bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Djigeni, c'est dans le sud de la Mauritanie, pas très loin de la frontière malienne. On vous écoute.
Oui. Je voulais saluer tous les auditeurs d'RFI, d'Afrique et d'ailleurs.
Oui.
J'ai appris sur RFI qu'il y a eu la formation d'un nouveau gouvernement avec la participation de l'opposition. Je voulais savoir quelle va être la priorité du nouveau gouvernement. Et puis, quels sont les opposants qui en font partie?
Ouais. C'est vrai que la composition de ce gouvernement provoque des divisions entre les opposants au président Pierre Nkurunziza, puisque certains, effectivement, vous le disiez, Sidi, ont accepté d'y participer, et d'autres jugent ce ralliement totalement illégitime. Sonia Rollet, qui sont les 5 membres de l'opposition qui ont rejoint le gouvernement?
Alors, les 5 membres de l'opposition qui ont rejoint le gouvernement, en fait, ce sont des membres de la coalition Amizero et Barundi, et plutôt même, on peut dire, des proches d'Agathon Rwasa. Alors, Agathon Rwasa, c'est cet ancien chef du mouvement rebelle FNL qui a décidé de rejoindre l'Assemblée nationale alors qu'il n'en reconnaissait pas les résultats. Enfin, du moins, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il ne reconnaissait pas les résultats des élections, qu'il ne reconnaissait pas le processus électoral et qui, à la dernière minute, à la surprise même de ses partenaires dans la coalition et notamment de Charles Didier, a décidé de siéger à l'Assemblée et même de prendre le poste de, puisqu'il a été élu, premier vice-président de l'Assemblée. Donc ouais. Il y a un certain nombre de députés proches d'Agathon Rwasa qui ont décidé de siéger. D'ailleurs, il y a quelques députés de Charles Didier, plutôt proches de Charles Didier, qui ont accepté de siéger. Mais dans les faits, en fait, il y a surtout Agathon Rwasa qui a décidé de participer aux institutions.
Agathon Rwasa, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité au Burundi, il faut quand même le rappeler, c'est l'un des principaux opposants et qui, dès le début, début de la contestation il y a 3 mois, disait qu'il fallait empêcher, tout faire pour empêcher Pierre Kourounzisa de briguer un troisième mandat. Il a même appelé à boycotter les élections. Et malgré tout, des membres de son parti se retrouvent aujourd'hui au gouvernement.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, c'est vrai que dans cette situation, il y a le reste de l'opposition qui reste campe sur ses positions. D'ailleurs, en général, ils prenaient des décisions communes. Les premières décisions de boycott étaient communes. Et donc, jusqu'à au samedi, puisque l'entrée à l'Assemblée d'Agathon Roissa a été le lundi, jusqu'au samedi, ils disaient qu'ils ne reconnaissaient pas les résultats des élections. Donc c'est vrai que ça a surpris beaucoup de gens. Alors pour parler des priorités du gouvernement, on a surtout un discours à la nation du président Kourounzisa, pour l'instant, comme base, c'est lui qui a donné les grandes lignes de ce que ce gouvernement était censé faire. Et donc, parmi les grandes lignes de ce qu'on a vu, il y a tout un aspect sécuritaire qui est très important. Il a demandé le renforcement des comités mixtes de sécurité qui existent à travers tout le pays et qui inclut la population civile, en les mettant en relation avec les forces de sécurité pour créer des espèces de comités de vigilance, mmh, qui sont souvent dénoncés par l'opposition, alors que l'opposition y était favorable au départ, en disant que c'est la population civile, on appelle la population civile à avoir une réaction de sécurité. Les États-Unis ont dit pareil, que c'était un discours dangereux. Et puis, y a aussi tout un aspect lié aux forces de sécurité, renforcer leurs capacités, leurs moyens, leur demander plus de vigilance, créer un service civique national, et notamment à destination des étudiants, qui serait obligatoire pour renforcer le patriotisme. Il y a aussi des mesures économiques qui reprennent un peu ces mesures de campagne, avec des annonces de dotation, notamment pour les communes. Chaque commune recevrait 500 millions de francs CFA, de francs burundais, pardon, par an, et un programme de développement. Voilà, c'est un peu les grandes lignes.
Les grandes lignes de ce programme à la nation. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que la sécurité reste la priorité numéro un de Pierre Kourounzisa pour son troisième mandat. On précise, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'opposition, qu'une grande partie de l'opposition ne reconnaît plus Pierre Kourounzisa comme étant le chef de l'État depuis mercredi dernier, depuis le 26 août, dernier jour de son second mandat, qui aurait dû être théoriquement son dernier mandat. Sonia Rollet, on vous garde encore quelques instants au téléphone. On a une autre question, toujours sur ce nouveau gouvernement au Burundi. Qu'avons-nous ? Égide, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à Sonia.
On vous écoute avec Sonia Rollet.
Merci beaucoup. J'ai une question s'inscrivant dans la logique de celle de mon prédécesseur mauritanien. J'aimerais savoir la marge de manœuvre de ces 5 ministres faisant partie du gouvernement de Nkurunziza et pourtant dont l'importance des portefeuilles est secondaire.
Alors, quelle est la marge de manœuvre des 5 opposants présents au gouvernement, Sonia Rollet?
Ça, c'est la vraie question. Justement, Charles Didier de la coalition Yabarundi, qui est donc avec Agathon Rwasa, qui sont toujours au sein de la même coalition alors qu'ils n'ont pas du tout la même position, disait: mais à quoi ça sert de prendre ces portefeuilles? Ce sont des portefeuilles qui ne sont pas suffisamment importants. Ils n'arriveront pas à changer le système de l'intérieur. Alors, Agathon Rwasa lui-même ne s'est pas exprimé, mais on a eu l'un de ses porte-parole, Aimé Maguera, qui est un porte-parole plutôt des SNL, qui est l'ancienne rébellion d'Agathon Rwasa, et qui disait on sait qu'on a peu de marge, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire que nous, on voulait pas rentrer dans la guerre, donc c'est pour ça qu'on a décidé de rentrer dans les institutions quand même, parce que l'alternative pour lutter contre le régime de Kourounzisa, qu'est-ce que c'était? C'était assez compliqué de le voir. Donc, ce qu'il dit, c'est on rentre à l'intérieur en espérant pouvoir faire quelque chose et pouvoir bloquer un certain nombre de décisions, si jamais il y a des décisions à bloquer. Mmh. Ce que disait Willy Nyamitwe, le conseiller en communication du président, c'est que c'était des propos qui étaient liés. Pas exact, puisque c'était quand même 5 portefeuilles, que un opposant n'avait jamais obtenu, lors du dernier gouvernement, n'avait pas obtenu autant de postes, et que ça reste 5 postes de ministre, et qu'on ne peut pas dire que c'est des postes secondaires.
Bien, on suivra tout ça de près, évidemment. Merci Sonia Rollet d'avoir été avec nous. On remercie Gide également. Vous souhaitez d'ailleurs réagir à l'attitude de cette opposition, en tout cas des 5 opposants qui ont rejoint le gouvernement de Pierre Kourounzisa. Soyez les bienvenus. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour la Libre Antenne. Le vendredi, je vous le rappelle, vous pouvez commenter tous les sujets qui vous intéressent dans l'actualité de la semaine. 33 9 693 693 70. Encore une question sur l'actualité. Moussa est avec nous. Il nous appelle de Conakry. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour Anne, bonjour Maman et Nicolas Falaise.
Ah bah voilà, Maman, Nicolas Falaise, Maman qu'on retrouve évidemment tous les jours dans l'étrange Afrique d'RFI, et Nicolas Falaise, journaliste au service international d'RFI. Vous êtes donc un fan de ces deux collaborateurs de la rédaction. Merci. Moussa, vous avez des questions sur le Liban?
Oui, Anne. Alors, le Liban a enregistré ces derniers temps une insécurité totale dans tout le pays. Alors, Anne, je voudrais savoir quelles sont les raisons de ces affrontements et ils sont-ils liés à l'engagement du Hezbollah libanais dans le conflit syrien?
Alors, il y a eu effectivement des affrontements. Vous ne pouvez pas généraliser en disant que c'est à travers tout le pays. Essentiellement, à Aïn El Eloué, c'est le plus grand camp de réfugiés palestiniens au Liban. On va essayer d'y voir plus clair avec Masri Feki qui est en ligne. Bonjour Masri Feki.
Bonjour.
Vous êtes directeur en géopolitique. On vous doit plusieurs ouvrages sur le Moyen-Orient, notamment géopolitique du Liban. Il y a eu effectivement des combats qui ont opposé, on va dire succinctement, des djihadistes à des factions palestiniennes. Il y a eu 3 morts ces derniers jours. D'abord, plantez-nous le décor. Ça ressemble à quoi, ce grand camp de réfugiés palestiniens?
Alors, plus précisément, si je commence par les récents affrontements, je dirais qu'ils sont principalement liés à des rivalités internes au sein des camps palestiniens et en l'occurrence au sein du plus grand camp, celui de Aïn El-Haïloué, comme vous venez de le souligner. Les salafistes palestiniens, donc les plus radicaux parmi les islamistes, dont le nombre ne cesse de croître, contestent de plus en plus l'autorité du Fatah, du président Abbas, qu'ils accusent de ne pas être assez ferme par rapport à la situation globale des Palestiniens, mais aussi par rapport à la situation des Palestiniens au Liban. Mais pour comprendre la situation, il convient de détailler un certain nombre de faits. Alors il faut savoir qu'environ 400 000 réfugiés palestiniens, et là en l'occurrence ce sont des vrais réfugiés palestiniens, c'est-à-dire des apatrides, ceux qui n'ont pas été naturalisés comme c'est le cas en Jordanie ou pour certains en Syrie. Là, il s'agit vraiment de personnes qui n'ont pas de nationalité, donc ce sont des vrais réfugiés, même s'ils sont sur le territoire libanais depuis plusieurs décennies. Et ils sont pour la plupart, pour l'écrasante majorité, dans des camps de réfugiés. Alors ce sont des villes aujourd'hui, hein, des villes, mais des villes qui sont contrôlées par les factions palestiniennes de manière tout à fait officielle en vertu d'un accord qui s'appelle l'accord du Caire de 1969, qui avait été signé sous les auspices de l'Égypte nassérienne et qui a vu le pouvoir libanais abandonner sa souveraineté tout à fait formellement sur les camps.
Ça veut dire que l'armée libyenne n'a pas le droit d'entrer dans ces camps de réfugiés palestiniens?
Libanaise n'a pas le droit d'entrer effectivement dans ces camps qui sont confiés. Alors, sont confiés de manière temporaire, hein, 1, 2, 5 ans, jusqu'à ce que la question des réfugiés soit réglée. Or, la question n'a pas été réglée depuis 1969, donc je vous laisse calculer le nombre d'années. Et donc, tout cela est à l'origine de multiples tensions, et cela, tous les ans, presque, il y a des tensions de cette nature.
Donc ce sont les factions armées qui contrôlent donc ces camps palestiniens, et il y a régulièrement des débordements?
Il y a régulièrement des débordements, notamment lorsque des Palestiniens sortent des camps. Et là, parce que justement ces tensions se sont exacerbées, de nombreuses familles palestiniennes se sont réfugiées dans la ville sunnite mitoyenne de Saïda, de Sidon. Et c'est là que les forces de sécurité libanaises donc ont eu à intervenir. Donc on voit bien que ces problèmes sont récurrents au Liban. Et il n'y a pas de solution tant que la question des réfugiés n'aura pas trouvé une issue qui convienne tout le monde. Donc ce problème, donc, comme vous le constatez, n'est donc pas directement lié à l'implication du Hezbollah en Syrie, même si il va de soi que l'engagement du Hezbollah aux côtés du régime d'Assad est bien sûr très mal perçu par les sunnites du Liban, dans le climat de conflit communautaire que connaît le Moyen-Orient, et dont les Palestiniens, qui sont aussi des sunnites et qui sont aussi globalement très opposés au régime d'Assad. On connaît la rupture entre le Hamas et le régime d'Assad. Et tout cela est à l'origine de tensions régulières, notamment dans les villes mixtes.
Merci beaucoup Masri Feki d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur la situation dans ces différents camps de réfugiés palestiniens au Liban. Merci à Moussa, il nous écoute fidèlement, on l'a bien compris, à Conakry, 10h30, dans une poignée de secondes. Ce sera l'occasion de retrouver la rédaction pour le point complet sur l'actualité. On reviendra dans 10 minutes pour notre débat du jour consacré au processus électoral au Burkina Faso. On va évidemment parler des candidats, des nombreux candidats de l'ancien régime burkinabé, exclus des élections législatives, mais aussi de l'élection présidentielle. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.